Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce sixième et dernier épisode de notre série sur Élisabeth II, je vous raconte comment la reine est parvenue à reconquérir l'estime et le respect de son peuple après une décennie chaotique marquée par le scandale et la tragédie. Pour célébrer le changement de millénaire, le Premier ministre Tony Blair veut un symbole spectaculaire. La construction sur la rive sud de la Tamise du dôme du millénaire, désormais inévitable dans le paysage londonien.
Well, it is now 2000 today, and to mark the birth of the new century, the River of Fire on the Thames fireworks all over the country.
Lors de l'inauguration dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, il tient à rendre hommage au génie du peuple britannique. Plusieurs expositions célèbrent la langue anglaise, ses plus grands auteurs, ses plus prestigieux artistes. L'archevêque de Canterbury prononce un discours sur les racines chrétiennes du Royaume-Uni et sur la naissance du Christ il y a 2000 ans. La reine et le duc d'Édimbourg sont évidemment présents et joignent leurs mains à celles du Premier ministre et de son épouse pour chanter « Auld Lang Syne », littéralement « le bon vieux temps ». Le prince Charles est lui aussi présent. Après la mort de Diana, il s'est énormément consacré à ses deux fils. William ne pose guère de problème. Il est à Eton et chaque semaine, il traverse la petite rivière qui sépare le collège du domaine de Windsor pour prendre le thé avec sa grand-mère. Élisabeth II le prépare avec tact au futur devoir de sa charge. Pour Harry, c'est plus difficile. Il n'était pas prêt à entrer à Eton et a dû redoubler sa dernière année de collège. C'est lui qui a été le plus choqué par la mort de sa mère. Pour le réconforter, Charles l'emmène en Afrique du Sud lors du voyage officiel qu'il effectue en novembre 1997. À Pâques 1998, c'est avec ses deux fils qu'il se rend au Canada, également en déplacement officiel. Le trio y reçoit un accueil triomphal. Cette année 1998 est celle des 50 ans du prince Charles. Il veut fêter cet anniversaire avec William et Harry, mais auparavant, il souhaite qu'il rencontre Camilla, qui a divorcé d'Andrew Parker Bowles en 1995. En juin, il organise un premier tête-à-tête entre William et Camilla au palais de St. James, où il habite avec ses fils. La maîtresse historique est terrorisée, mais tout se passe bien. C'est alors au tour de Harry de faire sa rencontre officielle. Cela se passe à Highgrove, en compagnie des deux fils de Camilla. La glace est vite rompue. Charles a réussi à la faire accepter par ses enfants. La preuve, lorsque le 31 juillet 1998, William et Harry donnent une grande fête pour les 50 ans de leur père à Highgrove, ils mettent Camilla à la place d'honneur. L'an 2000 est aussi l'occasion de fêter la reine-mère qui célèbre ses 100 ans le 4 août. Élisabeth II décide alors de donner à Windsor une grande réception suivie d'un bal pour célébrer non seulement le centenaire de sa mère, mais aussi les 70 ans de sa sœur Margaret, les 50 ans de sa fille Anne et les 40 ans de son fils Andrew, le duc d'York. Une fête mémorable, un événement unique pour la monarchie et une entrée spectaculaire des Windsor dans le troisième millénaire. Dans la famille royale, les anniversaires se célèbrent en plusieurs phases. Le 11 juillet, un office d'action de grâce est organisé dans la cathédrale Saint-Paul pour les 100 ans de la reine-mère en présence d'une multitude de têtes couronnées européennes. Le 18 juillet, à la Chambre des communes, Tony Blair félicite Queen Mum pour son siècle. Une grande première au Parlement. Enfin, le véritable jour de l'anniversaire, le 4 août, Elizabeth Bowes-Lyon pose pour les photographes devant sa résidence de Clarence House. Après ce rendez-vous médiatique, elle doit se rendre en calèche découverte en compagnie de son petit-fils Charles jusqu'à Buckingham Palace pour un déjeuner organisé en son honneur. Ce jour-là, la vieille femme, d'habitude si enjouée, est angoissée. Elle a peur qu'il n'y ait personne sur le trajet pour la saluer. Pour la détendre, Charles lui dit « Alors, allons-y, Granny, rappelez-vous que Hitler avait déclaré que vous étiez la femme la plus dangereuse d'Europe. » Elle éclate de rire. Peu après, elle constate que ses craintes n'étaient pas justifiées. Il y a une foule considérable pour l'acclamer le long de la belle avenue du Mall, puis lors de la rituelle apparition au balcon de Buckingham Palace. Depuis plusieurs années, la princesse Margaret est malade. Après son divorce d'avec le comte Snowdon en 1978, elle continue quelque temps sa liaison avec Roddy Lewin. Tony, lui, se remarie avec une divorcée qui était déjà dans sa vie, Lucy Lindsay Hogg. Il a trouvé son équilibre, mais pour Margaret, les choses vont de mal en pis. L'alcool aggrave sa dépression, tandis que Roddy tente une carrière de chanteur pop sans aucun succès. Pourtant, Margaret tient à lui. Elle exige sa présence pour son 50e anniversaire en 1980, mais la reine refuse. Roddy ne peut apparaître qu'à 10h30 du soir, après le dîner, avec les invités de la soirée dansante. When someone finds you crying, it's not much use denying that in your dreams, although you're kissing her, you're missing her and... La relation entre le playboy et la princesse dure 7 ans, mais dès le départ, elle n'avait pas beaucoup d'avenir. En 1981, Roddy tombe amoureux de Tanya Soskin. Il l'épouse, le couple aura 2 enfants. Margaret est à nouveau seule. Mais la fin de sa triste romance lui est plutôt bénéfique. Elle reprend ses activités de princesse, coupe des rubans, baptise des navires, préside ou parraine plus de 50 associations. Bref, elle justifie pleinement l'attribution de sa liste civile. La reine, qui aime profondément sa sœur, reprend espoir. Margaret semble plus raisonnable et surtout, elle s'est enfin rapprochée de ses enfants, David, devenu un designer reconnu, et Sarah, longtemps blessée par la conduite de leur mère. En juin 1995, Margaret apprend le décès de Peter Townsend, l'homme qui a sans doute le plus compté dans sa vie. Dans ce drame, elle s'était souvent montrée hostile, pour ne pas dire méchante et injuste à l'égard de la reine. Pourtant, Elisabeth II a toujours fait son possible pour accompagner sa sœur dans les périodes difficiles qu'elle a vécues, y compris avec le gouvernement. Margaret a tout de même fini par s'en apercevoir, comme en témoigne la très belle lettre qu'elle écrit à la reine au lendemain des funérailles de Diana.
J'ai voulu vous exprimer ma tendre admiration pour la façon si affectueuse dont vous avez pris soin de chacun après l'accident et rendu la vie supportable pour les deux pauvres garçons. Là, comme toujours, fidèle au poste, vous avez écouté chacun et pris toutes les décisions. Je vous ai simplement trouvée merveilleuse.
L'année suivante, en 1998, Margaret est victime d'un accident vasculaire cérébral. On lui avait déjà retiré une partie d'un poumon quelques années auparavant. À Noël 2001, à Sandringham, elle va mal. Elle est arrivée en hélicoptère. 2 nouvelles attaques la condamnent au fauteuil roulant. Quant à la reine-mère, elle a pris froid. L'ambiance est plutôt morose. Lorsque Margaret quitte Sandringham à la mi-janvier, Queen Mum tient à ce que toute la famille soit présente au moment où la princesse gagne sa voiture. On agite des mouchoirs en signe de revoir. Ce sera, en fait, un adieu. Le 8 février 2002, une nouvelle attaque la terrasse. Elle meurt le lendemain dans sa 72e année. Charles se précipite alors auprès de sa grand-mère, sachant combien elle doit souffrir de la perte de sa fille chérie. Les funérailles ont lieu le 15 février dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, exactement 50 ans après le décès du roi George VI. La princesse Margaret avait demandé à être incinérée et que l'urne soit déposée dans le mémorial de son père, à l'intérieur de la chapelle. Malgré sa grande faiblesse, la reine-mère fait un immense effort pour être présente aux obsèques de sa fille cadette. Puis, elle regagne Royal Lodge, dans le parc de Windsor, où elle ne va plus quitter son lit. Moins de 2 mois après Margaret, le 30 mars 2002, à 15h15, la veuve de George VI meurt à son tour, entourée d'Elisabeth et de certains de ses petits-enfants. Elle a droit à des funérailles solennelles. Sur son cercueil, la reine fait placer la couronne de son couronnement en 1937, ornée du célèbre diamant Koh-i-Noor, et une petite carte où est simplement écrit « In loving memory, Lilibet ». La cérémonie a lieu à Westminster, puis la défunte rejoint son époux dans la sépulture de la chapelle Saint-Georges. La veille des obsèques, Elisabeth II s'adresse à la population dans un bref message télévisé.
I have been deeply moved by the outpouring of affection which has accompanied her death.
J'ai été profondément ému par le déferlement d'affection en réaction à la triste nouvelle, rappelant que la reine mère avait un sens de la vie contagieux qui lui était resté jusqu'à la toute fin.
I thank you for the support you are giving me and my family. May God bless you all.
Des réactions qui rassurent la reine sur le futur de la monarchie. Avant l'hommage à sa mère, selon un sondage, 35% des Britanniques pensaient que la royauté ne survivrait pas à son règne. Après la cérémonie, cette proportion se réduit à moins de 12%. Le jubilé d'or de l'année suivante ne peut pas mieux tomber. La reine a une revanche à prendre sur le 40e anniversaire de son règne, qui coïncidait avec la catastrophique Annus Horribilis 1992. Comme toujours, cela se passe en plusieurs temps. Un défilé sur le Mall, le 4 avril, avec toute la jeune génération de la famille, puis un gigantesque concert rock dans les jardins de Buckingham Palace du 1er au 3 juin, avec Shirley Bassey, Tom Jones, Paul McCartney, Annie Lennox et Cliff Richard. Le prince Charles accueille protocolairement sa mère en lui disant « Madame », mais il achève son allocution en l'appelant « Mamie ». Désormais, chaque fois qu'il s'adressera publiquement à sa mère, il terminera de la même façon. Le moment le plus solennel est la messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul le 4 juin, avec un faste exceptionnel puisqu'on a ressorti le carrosse du couronnement.
I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me.
La presse ne s'y trompe pas. Très enthousiaste, les médias parlent d'un deuxième sacre. Le 4 janvier 2005, Le Sun publie en première page une photo du prince Harry, verre et cigarette à la main, en uniforme allemand de l'Afrika Korps avec un brassard orné de la croix gammée. Le titre est « Harry le nazi ». C'était le scabreux déguisement qu'il avait choisi pour participer à une fête d'anniversaire dont le thème non moins scabreux était « Africains et coloniaux ». Au-delà de l'extrême mauvais goût de tout cela, Harry est-il ignorant au point d'avoir oublié ce que l'Allemagne hitlérienne avait fait subir au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale ? Le scandale est d'autant moins opportun qu'au même moment, la reine préside à Londres une cérémonie commémorant le 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Harry a eu une enfance très perturbée et son adolescence n'est guère reluisante. Il passe ses soirées dans des nightclubs et dans les sous-sols de Highgrove que Charles a généreusement aménagé pour ses fils avec bar, jukebox, pistes de danse et très bonne sonorisation. Mais le prince de Galles s'aperçoit que son cadet y fume fréquemment de la marijuana. Il lui impose alors une journée dans une clinique de désintoxication pour qu'il se rende compte des ravages de la drogue. Tout cela est fâcheux pour Harry, qui en cette année 2005 doit intégrer l'Académie militaire de Sandhurst, le Saint-Cyr britannique. Malgré les impairs de son fils, l'année 2005 comble prince Charles. Le 9 avril, il peut enfin épouser Camilla, le grand amour de sa vie, 34 ans après leur coup de foudre. Elle a toujours partagé ses goûts et son humour, elle lui a donné confiance en lui, et malgré tous les drames, leur complicité et leur proximité n'ont jamais été rompues. Si la reine cède à leur mariage, c'est qu'elle a compris que cette femme est indispensable à son fils. Elle veut lui donner un signe de confiance tout en mettant fin à une situation inconfortable et vivement critiquée. Diana est morte il y a 8 ans. La tragédie a mis l'image de la souveraine à rude épreuve. Elle estime avoir acquis suffisamment de popularité pour imposer un mariage a priori impopulaire. Sa belle-fille défunte est toujours considérée comme une victime et Camilla diabolisée. Mais à 79 ans, Elisabeth II veut que son successeur soit incontestable avec à ses côtés une épouse légitime. Qu'importe ce qu'on peut en penser. La cérémonie, très simple, est diffusée en direct à la télévision. Elle a lieu en 2 temps. Un mariage civil à la mairie de Windsor, auquel la reine et Philippe n'assistent pas, puis une simple bénédiction nuptiale dans la chapelle Saint-Georges, donnée par l'archevêque de Canterbury en présence de toute la famille royale. Elisabeth, en jaune paille, est très souriante. Pour la photo souvenir, elle accepte de poser à côté des mariés et de leurs amis, parmi lesquels le comédien Rowan Atkinson, plus connu sous le nom de Mr. Bean, Stephen Fry, acteur et metteur en scène, et Joanna Lumley, héroïne de la série Chapeau melon et bottes de cuir et inoubliable Patsy Stone dans Absolutely Fabulous. La mariée reçoit le titre de duchesse de Cornouailles et elle a le droit d'associer les armes des Windsor aux siennes. Charles peut enfin afficher son bonheur. Mais Harry fait encore des siennes. En mai 2007, il se bat avec un paparazzi dans un club. Son garde du corps est obligé de l'évacuer car le prince est ivre. Entre-temps, il est pourtant sorti très brillamment de Sandhurst avec le grade de second lieutenant des Blues and Royals. À l'époque, il est furieux car il n'a pas obtenu l'autorisation d'aller combattre en Irak. L'état-major redoutait qu'il devienne une cible pour les talibans. Le 1er juillet 2007, jour anniversaire de leur mère qui aurait eu 46 ans, et presque 10 ans après sa mort, les deux frères organisent un concert exceptionnel au stade de Wembley à la mémoire de la Princesse des Cœurs. C'est un énorme succès, avec 60 000 spectateurs et 500 millions de téléspectateurs. Harry, 22 ans, est accompagné de sa petite amie du moment, la Sud-Africaine Chelsea Davy. William, qui a, lui, 25 ans, est seul. Il a rompu quelques mois plus tôt avec sa girlfriend, Kate Middleton. Elle est pourtant présente au concert 3 rangs plus haut que lui. La séparation n'est peut-être pas définitive. Si la reine est préoccupée par les incartades de Harry, elle l'aime tendrement et espère que la vie militaire va contribuer à le stabiliser. Quant à William, l'héritier en second, il lui donne toute satisfaction. Après Eton, période pendant laquelle elle l'a beaucoup vu, il n'opte pas pour Cambridge, contrairement à son père et à son grand-père. Il poursuit ses études à l'université écossaise de St. Andrews. On a dit qu'il l'avait choisi pour fuir la pression médiatique qui pesait sur lui à Londres, mais il y a peut-être une autre raison. St. Andrews se trouve en Écosse, cela peut donc être interprété comme une façon d'honorer ce territoire essentiel du Royaume-Uni. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente université, et ce coup de projecteur va en faire la plus attractive du royaume. On raconte que beaucoup de mères de la bonne société s'empressent d'y inscrire leurs filles, en espérant qu'elles attirent l'attention du prince. Les débuts de William sont assez laborieux, le niveau est très exigeant. Il s'est inscrit en histoire de l'art et ne se sent pas à la hauteur. Une amie, Kate Middleton, lui conseille alors de changer d'option et de choisir la géographie où il excellait à Eton. Elle lui propose aussi de s'installer en colocation avec elle et d'autres étudiants dans une maison en ville car la résidence universitaire est déprimante. Ils sont 4, William, Kate et 2 autres garçons. Kate aide beaucoup William. Le prince en fait part à son père et à ses grands-parents et la jeune femme est rapidement invitée aux vacances de ski à Closters, en Suisse, avec Charles et à Balmoral avec Elisabeth et Philippe. La jeune fille devient la girlfriend officielle du prince. Mais en 2007, à la fin de son cursus, il annonce sa séparation d'avec Kate Middleton. Déception pour la presse, c'est la fin d'un couple idéal qui faisait recette. William intègre alors l'Académie militaire de Sandhurst. Il quitte l'armée au début 2009 après avoir suivi une formation d'officier chef de char en 2008, puis des stages dans la Royal Navy et la Royal Air Force, d'où il sort pilote d'hélicoptère, un parcours sans faute. Lors de sa rupture avec le prince en 2007, Kate Middleton a été traquée par les médias, mais elle a su rester digne, ne faisant aucune déclaration et gardant toujours le sourire. William a été moins élégant. Il avait fêté son célibat dans un club londonien en s'exclamant « Je suis libre !» En réalité, c'est son groupe d'amis qui l'a poussé à la séparation. Il faut dire qu'ils avaient toujours traité la jeune femme avec mépris. Fille d'un ancien contrôleur aérien et d'une ancienne hôtesse de l'air qui ont fait fortune dans la création d'un site internet vendant des articles pour des fêtes et divers événements, elle faisait figure de parvenue. William avait aussi peur que Kate ne supporte pas l'attention constante subie par tout membre de la famille royale. Ni Charles ni la reine ne se sont mêlés le moins du monde de cette romance. Mais après son passage dans l'armée, William recommence peu à peu à voir Kate. S'est-il éloigné de ses influences nobles ou a-t-il tout simplement gagné en maturité? Il ne le dira pas. Mais force est de constater que les anciens amoureux se revoient d'abord discrètement, puis tout à fait ouvertement. Et le 13 novembre 2010, ils annoncent officiellement leur fiançailles. Ils apparaissent rayonnants, très à l'aise. Stupeur! Kate porte le saphir entouré de diamants que Charles avait offert à Diana pour leur propre fiançailles. Le symbole est écrasant, mais la jeune femme ne paraît pas s'en soucier. Elle fait négligemment scintiller le joyau à sa main gauche. Tout comme Diana, elle le porte à chacune de ses apparitions. Le mariage de William et Kate, le 29 avril 2011, fait le bonheur de la plus grande partie des habitants du Royaume-Uni. Un sondage, réalisé la veille, le démontre. 76% des Britanniques confirment leur attachement à la couronne. C'est une union moderne. Elle lie la maison royale à la famille Middleton, les premiers roturiers admis à pareil honneur en 350 ans.
I, William Arthur Philip Louis.
I, William Arthur Philip Louis.
Take thee, Catherine Elizabeth.
Take thee, Catherine Elizabeth.
To my wedded wife.
To my wedded wife.
I, Catherine Elizabeth.
I, Catherine Elizabeth.
Take thee, William Arthur Philip Louis.
Take thee, William Arthur Philip Louis.
To my wedded husband.
To my wedded husband.
Très beau spectacle, comme seule la monarchie britannique sait en organiser. Pour la cérémonie, c'est l'abbaye de Westminster qui est choisie, peut-être parce que la cathédrale Saint-Paul n'avait guère porté chance à Charles et Diana. À la sortie de l'abbaye, William et Kate s'installent dans un landau d'État datant de 1902. Lui, en uniforme rouge, elle, dans une robe de satin et dentelle de cauderie ivoire, dessinée par Sarah Burton, directrice artistique de la maison Alexander McQueen. Ses cheveux sont ornés d'un précieux diadème prêté par la reine. Le véhicule emmène le couple jusqu'à Buckingham Palace. La jeune mariée démontre une maîtrise immédiate du Royal Wave pour saluer la foule. Les deux baisers successifs réclamés par les badauds au balcon du palais sont infiniment plus convaincants que le furtif baiser arraché à Charles par Diana 30 ans plus tôt. Tous les records d'audience télévisuelle sont pulvérisés. La cérémonie est suivie par 2 milliards de téléspectateurs dans 180 pays. Pour la reine, c'est une grande réussite. Elle donne même son autorisation pour qu'une partie du quatrième étage du palais soit transformée en discothèque pour 300 invités, avec une boule à facettes réclamée par Pippa, la sœur de Kate, dont la sublime silhouette a hypnotisé le monde entier lors de la cérémonie quelques heures plus tôt. Quant au DJ, c'est Harry de Noctambule qui s'est chargé de la sélection, après de consciencieuses recherches.
I got a feeling that tonight's gonna be a
On danse jusqu'à l'heure du breakfast, servi après cette nuit presque blanche. Prudemment, la reine et le duc d'Édimbourg se sont retirés assez tôt dans le calme de Windsor. Seule ombre à ce mariage idyllique, le comportement de la duchesse d'York, la fameuse Fergie. Depuis son divorce en 1996, elle n'a cessé d'accumuler les dettes. Elle avait pourtant gagné une petite fortune en devenant aux États-Unis l'ambassadrice de Weight Watchers, mais le contrat est rompu parce que la duchesse a repris du poids. En 2008, elle coproduit un film sur les jeunes années de la reine Victoria avec Martin Scorsese. Il est très réussi, mais il a coûté trop cher et Fergie s'est encore endettée. Mais le pire survient en juin 2008 lorsqu'elle se fait piéger par un journaliste qu'elle prend pour un homme d'affaires. Rencontrée dans un bar d'hôtel, il lui demande de l'aider à contacter son ex-mari, le duc d'York, alors ambassadeur pour la promotion des industries britanniques dans le monde entier. La duchesse, assez éméchée, est filmée par une caméra cachée au moment où elle propose de l'aider moyennant 500 000 dollars. Une fois de plus, Fergie fait la une des tabloïds dans une posture accablante. Anjou a vendu leur propriété clinquante dans le parc de Windsor au président du Kazakhstan pour 25 millions de dollars. Depuis, il vit à Royal Lodge, l'ancienne résidence de sa grand-mère dans le parc de Windsor. Il y accueille ses filles, Béatrice et Eugénie, mais aussi son ex-épouse. À la veille du mariage de Kate et William, c'est lui qui inquiète la reine. En mars 2011, il apparaît dans tous les journaux britanniques en compagnie d'un milliardaire américain empêtré dans une sordide affaire de prostitution de mineurs. On n'en retient pas son nom à l'époque, il s'agit du pédocriminel Jeffrey Epstein. Si le duc d'York n'est alors pas encore impliqué personnellement dans l'affaire, c'est tout de même un scandale. Par ailleurs, les services secrets britanniques avertissent la reine que le prince a des relations douteuses avec de soi-disant investisseurs et autres oligarques de République d'Asie centrale. Andrew a-t-il profité de sa mission d'ambassadeur chargé de promouvoir le commerce et l'industrie au Royaume-Uni pour traiter des affaires plus personnelles? Une partie du gouvernement souhaite sa démission, mais David Cameron, Premier ministre depuis le 11 mai 2010, apporte son soutien au fils de la reine. Celle-ci le sermonne, mais elle est soulagée que ce début de scandale ne soit pas venu ternir les festivités du mariage de Kate et William. Lors d'une cérémonie privée à Windsor, elle promeut même Andrew, grand croix de l'ordre de Victoria, une façon de signifier que, pour elle, l'affaire est close. Mais cet immense honneur est-il bien mérité, ou la reine n'a-t-elle fait que protéger son fils préféré une fois de plus? Pour son jubilé de diamant, 60 ans de règne, le 3 juin 2012, Elisabeth II a voulu un événement si exceptionnel qu'il dépasse toutes les célébrations précédentes. En écho à la parade du roi Charles II Stuart qui, en mai 1662, avait descendu la Tamise, accompagné d'une véritable armada richement décorée, pour célébrer son mariage avec Catherine de Bragance, la souveraine a souhaité qu'une armada de bateaux escorte la sienne sur 11 km de Battersea Park à Tower Bridge. À 14h30, elle monte, accompagnée de la famille royale, à bord du Spirit of Chartwell, une barge redécorée dans le goût du XVIIe siècle. Le navire est un véritable jardin. 90 guirlandes, 140 plantes et des milliers de fleurs. Sous un dais de bois doré, deux fauteuils de velours cramoisi attendent la reine et le duc d'Édimbourg. Mais ils restent finalement debout, saluant la foule sur les berges, sans manifester la moindre fatigue pendant tout le trajet. Le défilé fluvial est époustouflant. La flottille royale s'avance au milieu d'un alignement de voiliers et le Tower Bridge s'ouvre pour laisser passer l'extraordinaire convoi formant une sorte d'arc de triomphe. Les canons tonnent, le feu d'artifice est tiré depuis les tours du pont. Devant les docks, un bateau appelé Symphony accueille le London Philharmonic Orchestra pour enchaîner divers hymnes jusqu'à l'obligatoire God Save the Queen. Il pleut, mais Elisabeth II, véritable reine de diamants, reste debout face au vent de l'histoire. Les festivités se suivent et ne se ressemblent pas. Le 27 juillet 2012, pour l'inauguration des Jeux Olympiques, Elisabeth II accepte d'apparaître dans un film très court où elle interprète son propre rôle. À 86 ans, elle n'oublie jamais que l'humour est dans l'ADN des Windsor. Un taxi s'arrête devant Buckingham Palace. Un homme en descend en smoking, c'est James Bond, l'agent 007, incarné par Daniel Craig. Il est accueilli par les trois corgis de la reine et un majordome qui l'accompagne à son bureau.
Mr. Bond, Your Majesty.
Vêtue et chapeautée de rose, elle accueille son visiteur.
Good evening, Mr. Bond.
Il répond, Good evening, Your Majesty. La reine se lève, tous deux empruntent un corridor, descendent l'escalier accompagnés des mêmes corgis et majordomes. Un hélicoptère les attend, ils y montent. 5 secondes plus tard, l'appareil survole le stade olympique. La souveraine et James Bond s'élancent dans le vide avant d'ouvrir leur parachute aux couleurs de l'Union Jack. Sensation internationale. L'année suivante apporte une autre occasion de se réjouir pour Elisabeth II. Le 22 juillet 2013, la duchesse de Cambridge, Kate, accouche à 16h24 à l'hôpital Sainte-Marie d'un garçon de 3,8 kg, George. Le baptême du petit prince est immortalisé par une photo que la reine a voulu comme un pendant à celle de Victoria dans la même situation en 1895. Sur une même photo, la souveraine régnante, son héritier le prince de Galles, Charles, l'héritier en second, William, et en troisième position, George, en robe de baptême dans les bras de son père. 4 générations de Windsor sur une même photo. Effectivement, on n'avait pas vu cela depuis Victoria. Mais 2 ans plus tard, la reine est préoccupée. Le premier ministre écossais a proposé à ses compatriotes de voter pour ou contre l'indépendance de leur pays. Il faut rappeler que l'Écosse jouit d'une large autonomie, avec un parlement, un premier ministre et un gouvernement. L'indépendance est un cauchemar pour Elisabeth, à moitié écossaise par sa mère et si attachée à ce territoire qu'elle y passe ses vacances d'été depuis sa naissance. Le 18 septembre, l'Écosse refuse l'indépendance à 55,3%. Ouf ! La reine en aurait ronronné de plaisir d'après David Cameron qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Mais les volontés séparatistes ne vont pas tarder à réémerger, cette fois côté anglais. L'année 2016 prend une dimension exceptionnelle au Royaume-Uni. On célèbre en même temps les 90 ans de la reine et les 95 ans du duc d'Édimbourg. Une fois de plus, Elisabeth II innove. Le 11 juin 2016, un immense pique-nique est organisé sur le Mall, cette grande avenue qui relie Buckingham Palace à Trafalgar Square. 10 000 convives, représentant les 600 associations et fondations que parraine Sa Majesté, prennent place autour de 1 700 tables et 10 000 paniers pique-nique sont distribués. Tout a été organisé par la princesse Anne et son fils Peter Phillips. Le duc de Cambridge remercie publiquement sa grand-mère. Granny, merci pour tout ce que tu as fait pour notre famille. Nous te souhaitons un bon anniversaire. Puis, toute la jeune génération Windsor, William, Kate, Harry, Eugénie et Béatrice vont à la rencontre de la foule. Mais la belle fête va être un peu gâchée car le premier ministre David Cameron, certain d'obtenir une réponse positive, organise 15 jours plus tard, le dimanche 25 juin 2016, un référendum pour savoir si le Royaume-Uni veut rester ou non au sein de l'Union européenne. Patatras, le résultat est non à 51,9%. Le Brexit est en route. Personne ne doit savoir ce que pense la reine. Elle se contente d'un laconique « Je suis toujours là ». L'année suivante, pour ses 96 ans, Philippe annonce son retrait de la vie publique. Il n'apparaîtra plus que dans des occasions familiales et privées. L'anniversaire du duc d'Édimbourg est endeuillé par les attentats terroristes de Londres et de Manchester qui, en mars, mai et juin, font 35 morts et 116 blessés, sans oublier l'incendie de la tour Grenfell, le 14 juin, qui fait 71 victimes. Triste année. Après ces frasques retentissantes, Harry a changé. Il a poursuivi sa carrière militaire, s'est battu à 2 reprises en Afghanistan, risquant sa vie. Il réalise qu'on ne le laissera plus s'exposer de cette façon. Alors il va mettre en pratique une idée remarquable, les Invictus Games, Autrement dit, des Jeux Olympiques pour les nombreux soldats et officiers blessés, handicapés ou traumatisés au combat. Les premiers ont lieu à Londres en septembre 2014 et sont un grand succès. Enfin, on dit du bien de Harry. 2 ans plus tard, il rencontre une actrice américaine, Meghan Markle, héroïne du feuilleton télévisé Suits. Elle a 34 ans, 3 ans de plus que le prince, elle est afro-américaine et divorcée. Il en tombe immédiatement amoureux. Ils apparaissent pour la première fois officiellement ensemble au Canada, aux Invictus Games de Toronto, en septembre 2017. Leurs fiançailles sont annoncées en novembre la même année et au Noël suivant, à Sandringham, Meghan est accueillie très chaleureusement par la reine et la famille royale. Elisabeth II a donné son accord sans hésiter. Pour elle, seul compte le bonheur et l'équilibre de son petit-fils si tourmenté. Le mariage est fixé au 19 mai 2018. La date a été choisie pour permettre à la duchesse de Cambridge d'être présente. Le 23 avril 2018, elle donne en effet naissance à son 3e enfant, après George et Charlotte, née en 2015. Un petit prince prénommé Louis, en souvenir de Lord Mountbatten, le parrain de Charles. Un record pour Kate, elle n'a passé que 7 heures à la clinique, l'accouchement a été express. Le mariage de Harry et Meghan dans la chapelle Saint-Georges de Windsor est un superbe spectacle. Le domaine de Windsor a son plus beau dans cette magnifique journée de printemps, la lumière rayonnante, les fleurs, les invités. Un seul petit couac, l'étonnant sermon du révérend Curry qui s'apparente à un show religieux. Personne n'a bronché, mais cette allocution, suivie de gospel, a fortement américanisé la cérémonie. La volonté de Meghan, sans doute. Le wedding breakfast de 600 couverts, organisé par la reine, a lieu dans le château. Le soir, le prince Charles offre un dîner à 200 personnes à la résidence de Frogmore dans le parc de Windsor. Une belle journée, malgré l'absence du père de Meghan et les révélations douteuses de sa demi-sœur. Très vite, elle est enceinte et accouche le 6 mai 2019 d'un petit Archie. Contrairement à tous les usages, le public reçoit très peu d'informations sur cette naissance et encore moins de photos. On note une volonté d'extrême discrétion, voire de dissimulation un peu étrange après la grande médiatisation du mariage. En septembre, le couple fait un voyage officiel avec le bébé en Afrique du Sud. Là, Harry et Meghan vont s'épancher. Harry contre les photographes qui les harcèlent, une obsession. Meghan se plaignant qu'on ne s'occupe pas d'elle ni de ses souffrances, toutes choses non conformes au comportement habituel de la famille royale, mais qui évoquent fâcheusement les plaintes de Diana. Cette attitude, la reine ne peut pas la supporter. Tout s'enchaîne alors très vite. Le départ de Harry, Meghan et Archie au Canada, leur absence à Sandringham à Noël, leur déclaration de vouloir renoncer à la vie publique et vivre de leurs propres ressources, tout cela sans même avoir prévenu Elisabeth II. Des négociations laborieuses ont lieu à Sandringham entre Harry, sa grand-mère, son père et son frère William. Leur installation au Canada, puis à Los Angeles, les déclarations récentes très désagréables de Harry à propos du supposé racisme des Britanniques constituent une fracture familiale qui choque l'opinion. Elle a certainement atteint la reine, mais comme à son habitude, elle n'a absolument rien laissé paraître. Confinée à Windsor par la crise sanitaire, elle fait le 8 mai 2020 une déclaration qu'elle seule, parmi tous les chefs d'État du monde, pouvait faire.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time.
Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle a connu la souffrance du peuple britannique. Son expérience lui permet de dire que la population du Royaume-Uni, courageuse, triomphera aussi de la crise du Covid. Elle est la reine, incarnation de l'Union nationale. Elle est toujours là. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques. Elisabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth, The Queen Mother, par William Shawcross, aux éditions Pan Books, 2009. George VI, par Sarah Bradford, aux éditions Penguin Books, 1989. Elisabeth II, la reine, par Jean Descartes, aux éditions Perrin, 2018.